Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Le 7-9-30 sur France Inter.
Mathilde Serrel, il y a 10 ans, vos invités se sont peut-être aperçus, tandis que défilaient les cortèges de la Manif pour tous. L'une était jeune journaliste à l'Obs, l'autre accompagnait ses parents. Aujourd'hui, ils témoignent ensemble et elle publie une enquête « Les humiliés EES » aux éditions des Équateurs.
Rosane Le Carboulec et Augustin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Avec la loi du 17 mai 2013, la France devient donc le 9e pays européen et le 14e pays au monde à autoriser le mariage homosexuel. C'était il y a 10 ans. Mais en quoi, pour vous, l'un et l'autre, ce n'est pas exactement ou pas seulement ce qu'on appelle un joyeux anniversaire? Qui répond en premier, Augustin?
Vas-y, Augustin.
Non, j'aurais jamais pensé le fêter. C'est pas un événement que j'ai envie de fêter. Parce que pour moi, le mariage pour tous, je l'associe forcément à la manif pour tous. J'ai jamais fêté l'adoption de la loi. Et donc aujourd'hui, ça me semble compliqué de fêter un événement dont je me rappelle pas du bon côté. Non, pour moi, dans ma famille, c'était tragique, l'adoption du mariage pour tous. C'était vraiment une catastrophe contre laquelle il fallait défiler, alors que je viens d'une famille qui manifeste pas beaucoup. Donc je vois pas d'un côté positif l'anniversaire du mariage pour tous, parce que pour moi, ça a été accompagné de trop de violence.
Et pour vous, Rosane Le Carboulec?
Pour moi aussi, effectivement, même si je l'ai vécu peut-être de manière un peu moins directe, étant donné que ma famille ne participait pas aux manifs pour tous, j'avais cette chance-là. En revanche, j'ai documenté effectivement dans mon livre à quel point ça a pu être une période extrêmement violente et traumatique pour un bon nombre de personnes LGBT, pour les personnes concernées qui ont été le sujet de débats extrêmement violents, où on remettait en cause leur existence même, en fait, sur des plateaux de télévision à heure de grande écoute. Ça a été documenté par l'association SOS Homophobie, qui a montré qu'en 2013, les violences à l'égard des personnes LGBT ont explosé de 78%. C'est énorme, c'était totalement inédit cette année-là. Donc oui, je dirais que c'est un anniversaire amer aujourd'hui.
Et au fond, est-ce que c'est pas lors de ces anniversaires qu'on se rend compte à quel point un événement n'est pas compris, analysé ou digéré? Au fond, on voit bien avec ces 10 ans ce qui remonte à la surface et ce qui n'est pas réglé, Rosane Le Carboulec.
Oui, effectivement, moi je suis assez étonnée, mais peut-être dans le bon sens du terme, hein, de la couverture médiatique des 10 ans du mariage pour tous aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui les médias sont assez unanimes sur le fait que c'était une manifestation homophobe, que c'était un déferlement de haine et de violence dans la rue. Et voilà, la plupart des médias aujourd'hui abordent la question en interviewant les personnes concernées et en revenant sur la violence des débats, alors qu'à l'époque, on était très 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 loin de ça. Donc effectivement, il y a eu pas mal d'évolutions là-dessus. Ouais.
Retour en 2013.
Papa, maman, les enfants, quoi de plus naturel on pense? Mais voilà qu'en douce France, certains s'en trouvent mécontents.
Une maman pour tous les enfants.
Ils vivent n'importe comment, mais ils veulent être parents.
Touche pas à ma partie.
C'est absolument pas une manifestation homophobe, mais c'est vraiment cette conviction profonde qu'un enfant a le droit d'avoir un père et une mère.
Ça veut dire que les homosexuels, on n'en veut pas. Et qu'un enfant, il a besoin d'un papa et d'une maman et pas de deux mamans.
Nous sommes tous des enfants hétéros, première, deuxième, troisième génération.
Il n'est pas possible que demain, un enfant, sur son acte de naissance, ait marqué Caroline, née de Jean-Pierre et Nicolas. Non ! Parce qu'il n'y a pas d'ovule dans les testicules. C'est comme ça, j'y peux rien, j'ai cherché.
Vous vous souvenez peut-être de cette voix, c'est une des icônes du mouvement, alors Frigide Barjot qui va réussir à queeriser, dites-vous, ce mouvement. Rosane Le Carboulec, on l'entend aussi dans les slogans, on a une sorte de détournement des tubes de la gauche. Qu'est-ce qui se joue au fond? Est-ce que c'est pas une inversion du clan de la transgression qui se joue en 2013?
C'était exactement ça, et c'est exactement là-dessus que s'appuie la stratégie de la Manif pour tous, puisque la Manif pour tous n'a cessé, dès sa création, de retourner des codes de mouvements sociaux, initialement plutôt de gauche, n'a cessé de reprendre un imaginaire de mobilisation collective plutôt ancré à gauche. Donc effectivement, il y a eu une récupération totale, politique et militante de ces questions-là. Et là-dessus, on peut reconnaître à la Manif pour tous un certain talent de communication, voilà, qui a aussi participé à la réussite du mouvement et au succès du mouvement à l'époque.
Queeriser, qu'est-ce que vous mettez derrière quand vous dites ça, pour expliquer un petit peu aux auditeurs? Elle a queerisé le mouvement.
Oui, bien sûr. Bah, c'est-à-dire, ça, c'était déjà le cas au moment des manifestations contre le PACS, en fait, à l'époque, à la fin des années 90. C'est-à-dire que les organisateurs des manifestations ont fait en sorte de masquer totalement la réelle identité, finalement, des personnes qui y participaient, qui étaient majoritairement des bourgeois blancs catholiques. Et en fait, il y avait des instructions données aux manifestants pour dire clairement, bah écoutez les enfants, mettez pas de vêtements Cyrillus, plutôt venez avec des jeans troués, les femmes, on évite les serre-têtes, et voilà, il y avait vraiment de vraies consignes données aux manifestants pour gommer leur identité, et c'est ce qu'Éric Fassin, le sociologue, nomme l'homophobie travestie. C'est une formule que je trouve assez drôle et assez juste là-dessus.
Alors Augustin, est-ce que vous qui êtes dans cette famille, hein, peut-être c'est peut-être un peu caricatural, c'est systématiquement le serre-tête et Cyrillus, mais comment est-ce que vous ressentez à ce moment-là ces slogans, et est-ce que vous aussi on vous dit de vous comporter de telle ou telle manière lorsque vous allez en manifestation avec vos sœurs, avec votre frère, avec votre famille et les membres de la paroisse aussi, c'est vrai?
J'avais pas trop de regard réflexif sur ce que je faisais à ce moment-là, puisque pour moi on allait marcher en famille pour défendre quelque chose qui tenait à cœur de mes parents. Nous on portait les suites de la Manif pour tous, on était invisibles dans la foule parce que tout le monde était un peu comme nous, mais c'est vrai que je me rappelle qu'il y avait une communication souvent les lendemains de manif et au cœur des discours des organisateurs qui mettaient beaucoup en avant le fait que c'était pas que des cathos qui marchaient, qu'il y avait même des personnes gays et lesbiennes qui étaient opposées au mariage pour tous, qu'il y avait des cortèges musulmans, et donc on nous faisait beaucoup comprendre que c'était pas si homogène que ça pouvait en avoir l'air. Mais moi je me rappelle que j'étais entouré de tout ce que je connaissais dans ma vie quotidienne. Il y avait des scouts, il y avait des gens de la paroisse, il y avait des amis de mes parents, il y avait toute ma famille. Donc moi j'étais en terrain connu, quoi. C'était pas du en terrain connu.
Oui,
j'étais pas du tout en terrain connu. Je connaissais tout ce qui était autour de moi et les discours qu'on disait à la Manif pour tous, je les connaissais, je les entendais au repas de famille, je les entendais dans les discussions que j'avais avec mes grands-parents, je connaissais tout ça.
Oui, vous dites d'ailleurs, parce que vous avez fait un podcast ensemble, qui est un travail de mémoire ensemble, vous dites que pour vous, c'est une union contre nature. Enfin, la question ne se pose pas dans votre univers référentiel à ce moment-là. Vos sœurs témoignent dans ce podcast, votre mère également. Et alors elle, bah, y en a une qui en garde un bon souvenir de ces manifs pour tous, l'autre qui dit qu'elle se sentait impressionnée par le nombre. Votre mère parle d'une ambiance bon enfant. Au sein de votre famille, c'est une mémoire qui continue à diviser. Personne n'a vécu la même chose.
La division, elle est entre elle et moi.
Ouais.
C'est parce que je suis passé de l'autre côté de la barrière de la manif que ça a commencé à diviser, parce que elles ont jamais eu besoin d'avoir un rapport réflexif par rapport à ce qui s'est passé. Le modèle qu'on défendait, c'est celui dans lequel elles vivent encore aujourd'hui, avec l'idéal du mariage et des enfants. Moi, il a fallu que je me rende compte que je suis gay pour réussir à traverser ça et à remettre en question les valeurs avec lesquelles j'ai été élevé. Et donc, forcément, ça crée du conflit aujourd'hui parce qu'on se comprend pas tout à fait, parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses, on n'a pas le même rapport à ce passé-là. Et je pense que j'en attends aussi beaucoup de leur part en réflexion, parce que c'est, pour moi, ça a été un passé douloureux, mais pas forcément pour elles.
Vous dites de votre mère qu'elle n'était pas homophobe au fond, mais qu'elle réagissait à un trop-plein de progressisme. Ça veut dire quoi pour vous ?
Ouais, moi je vois ça de manière très concrète par rapport aux discussions que j'avais dans ma famille. C'était une obsession sur tous les débats qui avaient lieu depuis l'élection de François Hollande, qui était très mal vu dans ma famille et dont on parlait à tous les repas de famille, à Noël avec les grands-parents. Vraiment, à tous les moments, on parlait des nouvelles lois qui passaient. Et cette idée du genre, cette idée, enfin de ce qu'on appelait la théorie du genre, le mariage pour tous, c'était trop de gauche pour ma famille. Et donc il fallait aller dans la rue parce qu'il fallait se montrer présent face à ça et combatif parce que c'était pas bien.
Et donc finalement voilà, ça devient une sorte de d'énorme explosion de tout un tas de choses qui se sont sédimentées finalement précédemment au-delà finalement de l'union des personnes du même sexe. En tout cas, vous êtes un enfant de la Manif pour tous qui a découvert ensuite son homosexualité, vous témoignez, vous faites aussi donc ce travail de mémoire et de réconciliation d'une certaine manière accompagné de Rosane Le Carboulec. Vous restez avec nous tous les deux. Il est 9h19 sur France Inter. La fausse joie à bout de nerfs du rappeur britannique Slow Thai sur France Inter. I feel good.
France Inter, le 7-9-30, l'invité de Mathilde Serrel.
Les invités de Mathilde Serrel, Rosane Le Carboulec et Augustin avec nous dans ce 9-10. Augustin, on en parlait à l'instant, vous découvrez donc vous votre homosexualité à l'adolescence après avoir manifesté donc aux côtés de vos parents dans cette manif pour tous qui est contre l'union des personnes du même sexe. À ce moment-là, c'est presque une double implosion pour vous puisque à la fois il y a ce modèle contre lequel vous avez manifesté, dans lequel vous allez vous projeter, et puis aussi l'implosion d'une famille qui n'est pas du tout le modèle qu'est-ce que elle prenait être à ce moment-là, puisque ça explose aussi du côté de votre père, donc finalement il y a deux choses qui implosent et qui explosent au même moment.
Ouais, tout à fait, et justement c'est la dislocation de ma famille autour des conflits entre mon père et ma mère qui va me permettre moi de remettre en question tout ce qu'on nous a inculqué depuis que je suis petit. Donc les valeurs de l'hétérosexualité, de l'importance du mariage, de l'importance d'avoir des enfants pour avoir de la reconnaissance sociale, tout ça je le remets en question parce que justement je vois que ma famille n'était pas du tout là-dedans, qu'elle s'est bâtie aussi sur beaucoup de mensonges et beaucoup de violence, et je pense que ça m'a fait du bien aussi d'en sortir en découvrant que j'étais pas tout à fait dans ce moule-là et qui m'avait pas moulé suffisamment pour m'emprisonner toute ma vie. Et c'est ça qui, oui, ça m'a permis de traverser un petit peu ce champ de ma famille et me trouver ailleurs. Après, c'est pas seulement ma famille qui m'a permis de faire mon coming out, c'est aussi des rencontres que j'ai faites au lycée, des amis, des choses que j'ai entendues. En grandissant un peu, on s'éloigne quand même de ce que nous apprend notre famille.
Et c'est le pivot finalement de la religion aussi qui va jouer à ce moment-là pour vous. Vous allez vous mettre à rejeter votre éducation catholique.
Ouais, parce que quand je découvre que je suis gay, je me rends compte que qu'il y a eu énormément de violence de la part de tous ceux avec quoi j'ai grandi, et donc je rejette tout en bloc, autant la religion que les scouts, que le milieu de la paroisse, que ma famille, que les valeurs chrétiennes, les valeurs conservatrices qui étaient défendues et qui m'ont fait du mal quand j'étais petit.
Vous, Rosane Le Carbouleck, vous avez très tôt, peut-être vous étiez une des premières à aller recueillir le témoignage de ces enfants de la Manif pour tous qui découvrent a posteriori leur homosexualité. C'était dans les pages du quotidien Le Monde. Bon, il y a énormément de témoignages qui sont glaçants parce qu'il y a des crises d'angoisse, il y a des gens qui tentent des thérapies de conversion, d'autres qui disent bah moi je voulais jouer au Playmobil, je voulais pas insulter les gens, etc. Et au fond, vous êtes allé plus loin cette fois-ci en rencontrant Augustin. Qu'est-ce que vous avez cherché à faire ensemble qui va au-delà du témoignage?
Bien sûr, il me semblait important de faire témoigner ces jeunes-là aujourd'hui. Parce qu'on pensait tous et toutes à elles et eux en se disant mais mon Dieu, mais ces enfants qui sont au devant des manifestations, que vont-ils devenir plus tard s'ils ou elles découvrent qu'ils sont homosexuels, bi ou trans. Donc il nous semblait essentiel de recueillir ces paroles-là. Et avec Augustin, effectivement, j'ai voulu aller un peu plus loin dans la mesure où il me semblait qu'il est important d'analyser un petit peu les conséquences d'une telle éducation. Catholique, conservatrice et malgré tout aussi homophobe, puisque Augustin, tu racontais qu'il y avait, pas mal d'insultes homophobes qui pouvaient jaillir au repas de famille notamment, et une homophobie à la fois externalisée et intériorisée de la part de beaucoup de membres de ces familles-là. Donc il est important d'aller plus loin pour déconstruire un petit peu cette éducation et montrer à quel point les impacts d'une telle éducation sur la construction d'une identité sont énormes.
Mais au-delà finalement de l'éducation catholique d'Augustin, c'est aussi l'éducation d'une époque qui est en jeu. Vous êtes jeune journaliste, je le disais tout à l'heure, à l'Obs quand vous arrivez. Vous allez quitter la rédaction 5 ans plus tard. Et vous avez finalement un haut-le-cœur, un ressenti très douloureux aussi à l'époque dans la façon dont les choses sont traitées. Donc au-delà de l'éducation, c'est un climat idéologique au fond.
Bien sûr. À ce moment-là, s'est opérée une énorme fracture, je pense, dans la société. Moi, effectivement, je l'ai vécu de manière assez violente, puisque quelque part, mon entrée dans le métier de journaliste a coïncidé avec la remise en cause la plus totale de mon identité, à la fois par la société et par cette profession que j'aspirais à intégrer un jour. Donc effectivement, ça a été très très violent.
Et vous arrivez en 2012, au moment des premières manifs.
C'est ça, moi, en 2012, j'étais diplômée de Sciences Po Rennes et j'intégrais l'Obs à ce moment-là. Et j'ai été amenée à couvrir, dès mon entrée quelque part dans le métier, les manifs pour tous. Et à ce moment-là, on considère que publier des tribunes de membres de la Manif pour tous qui étaient par ailleurs, qui tenaient des propos totalement homophobes, était normal, relevait du débat d'idées, de la liberté d'expression.
Et de l'objectivité au fond.
Et de l'objectivité journalistique qui n'existe pas. Puisque comme le dit justement Alice Coffin à plusieurs reprises, la neutralité c'est la subjectivité des dominants. Et je suis tout à fait d'accord avec elle là-dessus. Je ne sais pas si la neutralité journalistique est encore quelque chose d'inculqué en école de journalisme. Il faudrait absolument cesser avec ça aujourd'hui.
Mais au-delà de cette question de neutralité, est-ce qu'au fond, ce qui se joue dans la structure médiatique de l'époque, c'est pas une accentuation des clivages? L'opinion est majoritairement pour l'union des personnes du même sexe. Hein, de 56 à 63% des Français se déclarent favorables au mariage entre personnes du même sexe à l'époque. C'est pas la structure médiatique qui va accélérer le clivage? Même une partie de la gauche est partagée sur le sujet, mais les débats nuancés sont confisqués déjà en 2013. C'est ça qui émerge au fond.
Oui, bien sûr. Les médias, je pense, ont une énorme part de responsabilité dans la fracture qui s'est opérée à l'époque, puisque, comme vous le dites très justement, la population était en très grande majorité favorable au mariage et à l'adoption pour les personnes de même sexe. Tout comme ça s'est reproduit par la suite avec la PMA, où la grande majorité de la population était favorable à la PMA pour toutes. On a eu exactement le même type de traitement médiatique. Et effectivement, la Manif pour tous, à ce moment-là, a monopolisé totalement les débats. Et d'ailleurs, Frigide Barjot le dit très bien, je reprends une de ses citations dans mon livre, qui dit que ce sont les médias qui ont fait le mouvement. Et effectivement, puisque Frigide Barjot et consorts incarnaient un objet médiatique parfait pour les médias et pour les chaînes d'information en continu qui étaient quelque part à leur apogée à ce moment-là.
Donc là-dessus, il y aurait un droit d'inventaire et peut-être quelques leçons à tirer. Je voudrais qu'on termine avec vous, Augustin, et cette réconciliation quand même possible. Quand vous parlez à votre mère et que vous lui demandez si vous pourriez être un bon père, elle vous dit qu'elle n'en doute pas, à condition que les enfants gardent le lien avec la mère porteuse. Ça a beaucoup bougé quand même en 10 ans dans votre famille.
Oui, et ça a été permis par ce dont vous parliez tout à l'heure, par l'effondrement du modèle familial qu'on défendait à la base et la transformation de toute ma famille autour de nouvelles valeurs. Et ouais, maintenant ça bouge. J'ai beaucoup de chance d'avoir une famille comme ça aussi qui est capable de se remettre en question, de regarder son passé en face et de communiquer parce que finalement on est de la même famille. Donc on s'aime toujours et on est capable de s'écouter et de continuer de bouger les uns pour les autres aussi.
Ce qui se passe au sein d'une famille, ça peut se passer à l'échelle de la société. Tiens, rêvons un peu. Merci Augustin, merci Rosane Le Carboulec. Votre ouvrage Les Humiliés et ES paraît ce mercredi aux éditions des Équateurs. Et puis votre podcast à tous les deux, Au nom du fils, produit par Nouvelles Écoutes, toujours disponible sur toutes les plateformes. Bonne journée.
Merci
à vous. Merci Mathilde Serret. À demain dans un instant. Totémique, Rebecca Manzoni.